7h41.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Pour dresser l'inventaire des forces en présence à gauche dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain, mieux vaut peut-être commencer par chercher dans la liste des potentiels présidentiables ceux qui ne sont pas pour l'instant prétendants à une candidature ou à une investiture quelconque, en ou hors primaire. Et alors, seul le nom pour l'instant de Martine Aubry apparaît. La maire de Lille, qui réunira finalement ses troupes en novembre, a fait savoir en fin de semaine dernière qu'elle n'était pas candidate, à la différence d'à peu près tous les autres. Ce trop-plein de candidats signalés, dénoncés par nombre d'éditorialistes ce matin, est-il le signe d'un dynamisme, d'un foisonnement d'idées à gauche? Il serait alors annonciateur d'un débat riche et puissant qui pourrait faire espérer qu'on peut encore changer la vie? Ou bien est-ce le signe d'un éclatement, d'une désillusion, d'une mort annoncée de la gauche et d'une inévitable alternance l'an prochain en France? Plus largement, où en est-on dans l'histoire de la gauche ou des gauches françaises? Deux invités pour répondre à ces questions. Gilles Candard, historien, président de la Société d'études jaurésiennes, et Philippe Marlière, politiste, professeur à l'University College London. Gilles Candard, il n'y aura pas ce week-end, et pour la première fois depuis très longtemps, d'université d'été du Parti Socialiste. Elle devait se tenir à Nantes cette année. Ce sont des raisons de sécurité qui ont été invoquées, mais évidemment, on est d'accord, hein, le malaise est beaucoup, beaucoup plus profond.
Assurément, hein, c'est ce que nous disions tout à l'heure, et pour rebondir un peu sur ce que disait Philippe Marlière, je crois que tous les partis de gauche ont un problème avec l'élection présidentielle, avec la 5e République, qu'ils n'ont pas réglé. On a pu croire avec François Mitterrand, mais c'était évidemment un petit peu fallacieux. Parce que là, on voit bien que beaucoup de candidats arrivent à l'élection présidentielle en disant il faut surtout plus de président omnipotent, il faut réformer la 5e, il faut passer à la 6e, il faut rendre le pouvoir au peuple. Mais se présente chacun comme s'il pouvait réaliser un ensemble de programmes.
Et ça vaut
aussi
vraiment
bien pour le gouvernement que pour l'opposition de gauche.
Sans vraiment vouloir d'ailleurs réformer les institutions. On parle plus de 6e République. Là, par exemple, Arnaud Montebourg hier, c'était lui le chantre de la 6e République.
Oui, mais je trouve que la critique peut être élargie, enfin, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, les écologistes et autres, hein, qui parlent de 6e République. Mais sans, disons, qu'on comprenne très bien sur quelle stratégie politique ils peuvent s'appuyer pour y arriver. Et c'est là, je crois, un problème qui ne se pose pas seulement à la gauche du gouvernement, mais qui se pose à la gauche dans son ensemble. Alors moi, je suis surpris. On voit, il y a des personnalités, il y a parfois des programmes, des propositions, mais il y a finalement très peu de stratégies politiques. Et donc, comme il y a très peu de stratégies politiques, ça correspond aussi au fait que tous les partis politiques de gauche, du plus modéré jusqu'à l'extrême gauche, sont effectivement dans un triste état actuellement.
Ouais, le problème, si on reste sur le PS un instant, hein, Gilles Candard, oui, c'est qu'il n'a finalement pas été réformé, malgré, et on ne parle pas de réforme d'institution, là, mais du logiciel du PS. On avait un président qui avait tous les pouvoirs, qui a voulu quand même rénover ce logiciel du PS, mais sans mettre les mots dessus.
Oui, sans mettre les mots, mais s'il ne l'a pas fait,
c'est, donc peut-être, ça s'y fait pas,
hein. C'est peut-être parce qu'il ne le pouvait pas. Donc, si vraiment il fallait changer des choses dans le programme, dans, disons, les propositions du Parti Socialiste, il fallait que ce soit le Parti Socialiste qui le fasse. Donc, il fallait que ce soit discuté, dans ce cas-là, en congrès. Enfin, moi, je ne suis pas au Parti Socialiste, mais ça me paraît être un fonctionnement normal et logique. Or, on voit bien que là, ce n'est pas du tout comme cela que les choses se sont passées. On se fait d'abord élire, et puis ensuite, on voit. La tradition socialiste était quand même autrefois qu'il y avait effectivement de grands affrontements de doctrines, hein, Jaurès, Guède, Blum, Mollet, Mendès et d'autres. Mais enfin, des affrontements de doctrines doivent être quand même exposés devant les citoyens. Et dans le cadre des partis, eh bien, ça devrait être logiquement, même si pas être entièrement naïf, mais enfin, ça devrait être logiquement, les militants de ces partis qui trancheraient. Or là, on a toujours l'impression qu'on fait tout pour éviter que les militants des partis politiques discutent des vrais problèmes politiques. On en parle d'autres choses.
Mais là, on n'est pas dans un affrontement de doctrine, Gilles Candard. 14 rassemblements différents prévus un peu partout en France pour les rentrées des gauches. C'est un décompte de Libération ce matin.
Oui.
14 rassemblements différents.
Il y a beaucoup d'ambition. Et on remarque que, justement, même à l'intérieur, disons, de chaque famille doctrinale, il y a une très grande division. Emmanuel Macron contre Manuel Valls, Benoît Hamon contre Arnaud Montebourg. À chaque fois, on a bien l'impression qu'il n'y a tout même pas de grande divergence idéologique entre ces deux ambitions. Mais on pourrait continuer. pour les écologistes, pour Mélenchon et le Parti communiste. Le problème, effectivement, me paraît concerner la totalité de la gauche, une très grande faiblesse de réflexion stratégique.
Ouais, Philippe Marlière, le problème de la gauche, c'est avant tout cette désunion en cette dernière rentrée du quinquennat, avec un objectif d'une primaire qui a finalement été un peu détournée, Philippe Marlière.
Oui, absolument. La désunion de la gauche qui est patente va effectivement, dès avant cette élection, affaiblir la gauche. Je ne me souviens pas avoir vu une situation dans laquelle la gauche était aussi désunie, donc aussi faible avant une élection présidentielle. Donc effectivement, les choses sont mal parties. Pour ce qui est de cette primaire, une idée qui est d'ailleurs dont Montebourg avait été l'un des initiateurs il y a quelques années, qui avait connu un certain succès. L'organisation 2012 avait permis de créer une dynamique en faveur de Hollande pour battre Sarkozy. Effectivement, il y a de très gros problèmes pour organiser une primaire alors que ces gauches actuellement sont aussi désunies, et notamment il y a des désaccords politiques et idéologiques très très profonds. Il n'y a aucun problème, notamment entre ce que fait d'une part le gouvernement, François Hollande, son aile gauche, les soi-disant frondeurs, et aussi au-delà le front de gauche et la gauche radicale. Mais néanmoins, on peut quand même se pencher un instant sur cette idée qui n'est peut-être pas, ce n'est peut-être pas la panacée, la meilleure des idées, mais qui n'est peut-être pas la pire non plus. Et on voit bien qu'en l'absence d'une vraie primaire, eh bien cette gauche va à cette élection présidentielle, c'est-à-dire une espèce de concours de beauté qui personnalise à mort les enjeux politiques au lieu de justement de faire sortir de vrais débats de fond. Eh bien, cette primaire, c'est vrai, si elle avait pu s'organiser sur toute la gauche, effectivement, aurait permis de dégager un candidat unique et une dynamique, ce qui n'aura pas lieu, parce que là, nous allons avoir, dans le meilleur des cas, une primaire au rabais, qui servira peut-être, surtout s'il y a plusieurs candidats socialistes de l'aile gauche, à François Hollande, in extremis, de se représenter. Et si c'est le cas, je crois que je ne donne pas cher des chances du PS et de Hollande.
Oui, parce qu'il va se représenter avec une certaine concurrence. Est-ce qu'un programme commun serait envisageable? Alors, pour cette année, là, c'est un peu raté, Gilles Candard. Est-ce que, par construction, c'est vraiment impossible? Il faut se rappeler quand même que le programme commun dans les années 70, ça reposait aussi sur des idées qui étaient très différentes entre les communistes, les socialistes, les radicaux de gauche.
Bien sûr, et puis Lionel Jospin ou Martine Aubry, finalement, avaient poursuivi un peu cela avec la gauche plurielle, puis le... également le rapprochement qu'avait réussi Martine Aubry avec au moins les écologistes et les radicaux. Mais alors, on serait plus dans une logique, à mon avis, là, de contrat de législature, parce que il s'agit de réussir à faire converger des forces politiques et à construire des compromis. Et on voit bien que ça a tout même beaucoup de mal à fonctionner dans le cadre d'une élection présidentielle où il s'agit de choisir un démiurge qui va régler des problèmes. Donc je crains que la solution du programme commun ne soit pas vraiment adaptable à la situation politique actuelle et à l'élection présidentielle qui domine tout.
Oui. Philippe Marlière.
Oui, il est beaucoup trop tard pour parler de programme commun. Si on se souvient du programme commun de 72, signé par les socialistes communistes et le mouvement des radicaux de gauche, bon, ça, il y avait eu des mois et des mois de négociations très serrées pour y parvenir. Donc c'est beaucoup trop tard. Et je crois que tout le déroulé de ce quinquennat va à l'encontre d'un programme commun, puisque dès le départ, quasiment, ce qu'on appelle ou ce qu'on a appelé le front de gauche, il existe encore, s'est posé dans une position de désaccord et d'opposition au gouvernement. Donc on ne peut pas imaginer aujourd'hui, alors que Hollande est allé jusqu'au bout d'une politique et d'une logique qui l'a mis dans la situation qu'on connaît, c'est impossible. Mais ce qui était vraiment, je crois que c'est un paradoxe là, c'est que effectivement ces gauches françaises n'ont jamais été aussi désunies, alors que finalement, lorsqu'on y regarde bien, peut-être que les écarts idéologiques entre les différentes formations ne sont pas aussi importants qu'elles ne l'ont été par le passé. Par le passé, on disait généralement un petit peu, en grossissant un peu le trait, qu'il y avait une gauche révolutionnaire et une gauche réformiste. Je crois qu'aujourd'hui, à l'exception évidemment de partis tels que Lutte Ouvrière, le NPA peut-être, eh bien on a plutôt un arc de partis réformistes, puisque qu'est-ce que le front de gauche si ce n'est un regroupement de partis qui jouent le jeu parlementaire, des partis qui vont aux élections, qui ont avec des élus, des mandats. Je crois que finalement, évidemment, il y a des différences politiques et idéologiques entre ces formations, mais il y aurait, je crois, un terrain possible pour une entente et pour, à tout le moins, proposer des mesures phares sur le plan social et économique, et aussi redonner une direction, un récit nouveau qui manque totalement à la gauche en ce moment.
Et pourtant, ne serait-ce que dans on va vous donner la parole, Gilles Candard, mais à l'intérieur même du PS, on a quand même des sensibilités qui sont très différentes entre Montebourg. Alors certes, Macron, lui, n'est pas au PS, il l'a bien rappelé encore en fin de semaine dernière, mais il est quand même issu de ce gouvernement. Il y a des logiques quand même qui sont très différentes.
Oui, je suis d'accord, moi, avec Philippe Pardière. Quand vous regardez les municipalités, les départements, il y en a beaucoup moins maintenant, bien sûr, hein, parce que la gauche est très affaiblie, mais elle fonctionne souvent, ce sont des municipalités très souvent, disons, de gauche. Regardez Paris, ou de nombreux départements du Val-de-Marne, qui est dirigé par un communiste, et beaucoup de collectivités locales, on voit que la gauche arrive à fonctionner. Mmh. Et effectivement, on voit très bien que finalement pourrait se dessiner et éventuellement des accords à gauche, mais ça serait au rebours tout de même de ce qu'a fait, me semble-t-il, le gouvernement effectivement depuis 2012, où à chaque fois on a choisi de clarifier et de clarifier sur une ligne de plus en plus éloignée, disons, de la gauche. Et la dernière fois, ça a été d'ailleurs en promouvant Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, qui tient un discours très ouvertement libéral et très ouvertement en opposition avec, disons, tous les signes, tous les marqueurs de la gauche socialiste et républicaine habituelle. Quoi.
Donc c'est François Hollande qui a failli
Je dirais pas qu'il a failli, mais il a choisi. François Hollande a choisi et je trouve qu'il s'est mis dans une situation politique dont qu'il est très difficile maintenant d'améliorer, parce que électoralement, avec qui faire des alliances, sur qui s'appuyer. Bon, il n'a pas voulu mettre Martine Aubry au gouvernement, il a fait partir Montebourg et Hamon qui étaient indisciplinés. Bon, tout ça peut se comprendre à chaque fois. Il a fait des choix politiques qui peuvent sans doute aussi se comprendre, mais qui effectivement l'ont quand même beaucoup isolé, hein. Et donc aujourd'hui il se retrouve avec une base politique qui est tout de même réduite.
Quel c'est pourrait être le nouveau récit de la gauche, le nouveau récit dont parlait Philippe Marlière tout à l'heure, d'après vous, Gilles Candard?
Ouais, il me semble que qu'un nouveau récit est possible, mais les divergences, notamment sur, on voit bien sur l'Europe, hein, c'est quand même beaucoup ça qui est sur la table, serait peut-être à trancher autrement qu'en disant que c'est le président de la République qui, le moment venu, décide ce qui s'est passé à partir de 2012. Il faudrait, à mon avis, il faudrait qu'on refasse davantage de politique. Il faudrait même davantage solliciter les citoyens, même si ce n'est pas toujours facile, et obtenir des compromis politiques à gauche. Qu'on peut deviner à peu près, mais qui ne serait pas parachuté par verticalement par un pouvoir venu du haut. Ça, vous vous rappelez de ce que disait, par exemple, Jean-Marie Le Guen, les députés n'ont pas de légitimité, etc. Ça, à mon avis, ça ne peut plus fonctionner. On ne peut pas tout donner, tout le pouvoir à un président de la République qui n'a pas la personnalité charismatique que pouvait avoir autrefois un président de la République. Donc il faudrait inverser complètement le logiciel.
Philippe Marlière, est-ce que la ligne de fracture à gauche aujourd'hui, c'est les Européens contre les démondialisateurs, par exemple?
Écoutez, je ne crois pas, parce que bon, l'Europe est évidemment un sujet extrêmement sensible autour duquel la gauche finalement se dispute. Il y a effectivement différentes interprétations, on l'a vu ne serait-ce qu'aussi, ce qui d'ailleurs m'a concerné directement avec le Brexit, où on avait en France, dans la gauche, deux types de réactions. Une réaction, la première qui saluait cette sortie des Britanniques en disant il faudrait faire la même chose. Et puis d'autres qui disaient, attention, c'est plus compliqué que ça, sur une position un peu plus comme à la Yanis Varoufakis en Grèce, c'est-à-dire critique, évidemment, qui ne serait pas critique de cette Europe actuellement, mais en disant qu'effectivement, on ne peut pas tourner le dos à un engagement internationaliste et puis sortir de l'Europe pour quand on est de gauche et progressiste, ne veut pas, comme d'ailleurs l'exemple britannique l'a montré, ne veut pas dire une sortie à gauche et progressiste. Le Brexit a été propulsé par des forces néolibérales et réactionnaires, et xénophobes aussi. Donc c'est très compliqué l'Europe, parce que d'une part, effectivement, il faut apprendre à gérer les compromis nécessaires lorsqu'on est 26 nations impliquées dedans, avec des institutions effectivement qui posent de gros problèmes supranationales. Mais je crois que la vraie question aujourd'hui, lorsqu'on est de gauche, au contraire, c'est de réitérer cet engagement internationaliste. Et c'est aussi, finalement, le problème de la gauche française. Je crois, d'une part, que ce gouvernement, ceux qui ont géré le pays, sont dans une très très large mesure discrédités, ne peuvent pas proposer un avenir crédible à cette gauche, puisqu'ils ont, comme Gilles Condard l'a dit, tourné le dos systématiquement à ce qui pouvait apparaître comme un petit peu de social-démocratie. La loi El Khomri a été finalement l'apothéose de ces reniements. Mais pour le reste, et j'inclus dans cela la gauche socialiste et le front de gauche, et même au-delà tous ceux qui veulent y participer, je crois que cette gauche devrait avant tout, c'est son problème majeur, à des degrés différents, c'est sortir de son entre-soi. Je crois qu'on a une gauche qui finalement devrait un petit peu attraper le train du monde actuel tel qu'il est, et ne pas essayer de refaire ce monde en portant des lunettes d'il y a 40 ou 50 ans. On parlait tout à l'heure du programme commun. Ce temps-là est révolu. On peut peut-être, dans un certain nombre de cas, le regretter, mais il ne reviendra pas. Donc je crois que la gauche devrait, en particulier, ce sont ses gros déficits, renouer avec les classes populaires. Elle ne le fait pas. Elle est en train de perdre son électorat féminin. Les jeunes ne sont pas au rendez-vous. Et qui, lorsqu'on est jeune, pourrait s'intéresser à ce paysage de gauche? Et ce qu'on appelle, dans un langage plus anglo-saxon, les minorités ethniques, qui sont souvent prolétarisées. On le voit, les gros problèmes, les tensions raciales, multiculturelles en France, qui sont extrêmement importantes, hein, et je dirais même plus importantes que dans de nombreux grands pays européens, eh bien on voit que ce modèle républicain, les réponses de gauche traditionnelles ne marchent plus. Ces catégories sont laissées sur le bord de la route, et je crois que tout ça non seulement se paie en termes électoraux dans un premier temps, mais aussi en termes d'image, de crédibilité. Et je crois qu'un récit devrait essayer de renouer avec ces catégories dominées, souvent. Et je crois que les mauvais choix justement qu'ont fait ce gouvernement, ça a été de dire, voilà, ces catégories ne votent pas ou peu, donc
qu'on s'en désintéresse. Mais là, le débat est ancien, Philippe Marlière, entre classe populaire ou classe moyenne, Gilles Condard. C'est un vieux débat, ça, notamment au sein du Parti Socialiste.
Oui, il faut fédérer les deux, tout de même. Ça, je pense que nous serons tous d'accord. Mais je dirais que, justement, ce qui me semble montrer aussi, Philippe Marlière, c'est que il y a une facilité, parfois, à cause justement du système présidentiel, à faire porter, disons, toutes les responsabilités au choix du président ou du gouvernement, et à se reposer, hein, chez les frondeurs ou au front de gauche, disons, pour dire les choses largement. Je dirais, comme ça a été très facile d'être contre eux, bah, du coup, on a fait aussi un peu l'économie, justement, de réfléchir à ce que devait être concrètement une politique de gauche. Ce qui fait, c'est toi-même été le principal argument de Manuel Valls, qui n'était pas faux, hein, de dire qu'à chaque fois, effectivement, la gauche gouvernementale perdait dans les élections partielles ou locales, mais qu'il n'y avait pas de proposition qui émergeait plus à gauche. Parce que là, il y a une certaine paresse, à mon avis, qui a existé.
Et qui existe peut-être
encore. Et qui existe encore, oui. Gilles Condard. On n'est pas tout à fait sorti.
Merci à vous, Gilles Condard. Je rappelle les références de d'un de vos derniers ouvrages, Au bord de l'eau, Devenir socialiste, le cas Jaurès. Merci aussi à Philippe Marlière, auteur de La gauche radicale en Europe, publié en 2013 aux éditions du Croquant.